C'est un long apprentissage que de savoir rejoindre enfin la vie qui nous va. Cela fait 3 ans qu'à travers ce podcast, nous vous proposons de découvrir les femmes et les hommes qui nous inspirent. Je suis toujours Charlotte, cofondatrice de Juillet, l'agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. Et pour cette saison 4 de l'Instant Juillet, je vous invite à partager avec nous la suite de notre aventure. De l'idée de Juillet à sa naissance, de nos imprévus à la création de vos événements, de nos détours à la réalisation de nos ambitions, une seule chose n'a jamais varié, notre été invincible. Alors, nous vous proposons pour cette nouvelle saison de rencontrer les personnes dont la réussite nous inspire et de découvrir ensemble le sens de leur été invincible. Rien n'est possible sans envie, rien n'a de sens sans rencontre. Alors posez-vous, respirez et savourez avec nous votre instant juillet. Pour le 46e épisode de l'Instant Juillet, c'est une athlète de haut niveau que nous recevons. Depuis ses 12 ans, Mathilde Sénéchal pratique l'athlétisme à Blois. Elle compte plus de 10 sélections en équipe de France et a gagné des titres de championne de France et la médaille d'argent au championnat d'Europe junior. Alors évidemment, rien que pour cela, nous avions envie de découvrir son parcours, de connaître sa détermination. Mais ensuite, lorsqu'on sait qu'en plus elle a mené en parallèle des études de droit, avec l'envie, je crois, de devenir avocate en droit des affaires, on se dit qu'elle a sans aucun doute en elle une flamme, un pourquoi qui la pousse au quotidien à se dépasser, à tout oser. Alors, c'est avec beaucoup d'admiration et de curiosité que nous vous présentons Mathilde, le temps d'un instant juillet. Mathilde, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Alors d'abord, bravo. C'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit quand je découvre ton parcours et la détermination avec laquelle tu sembles mener à la fois les challenges sportifs, mais aussi tes études et ta carrière professionnelle. Alors, on a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois dans des réseaux professionnels sur Blois et on n'avait jamais pris le temps d'évoquer le sujet, mais je suis vraiment admirative de la manière dont tu gères toutes les étapes qui mènent à la réalisation de tes rêves, de tes ambitions et toujours avec le sourire. Quand on te voit, c'est vrai, on perçoit une grande sérénité et pourtant, je suis certaine qu'il y a des grands moments de doute et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mise en question qui doivent jalonner ton chemin. Alors raconte-nous, c'est quoi une journée type dans la peau de Mathilde ?
Alors merci beaucoup pour cette très très belle introduction. Je suis très très contente d'être avec toi aujourd'hui.
Merci.
Alors une journée type, en réalité, il n'y en a pas vraiment parce que ça va dépendre de la période. Il y a des moments où je suis par exemple en stage d'entraînement généralement à l'étranger, donc la journée sera très différente d'une journée par exemple à Blois où je vais combiner la vie professionnelle et les entraînements. Mais disons que quand je suis à Blois, généralement je vais m'entraîner le matin. Après j'aurai quelques heures en fin de matinée, début d'après-midi pour travailler en tant que juriste, parce que je suis à côté juriste pour un cabinet d'experts comptables. Et le soir, je retourne à l'entraînement sur les coups de 18h. Entre-temps, peut y avoir des séances de kiné qui s'interfèrent sur la pause déjeuner, voilà, des petites choses comme ça. Donc les journées sont souvent bien remplies, mais assez diversifiées et c'est aussi ce que j'aime, quoi.
Et alors comment tu fais, parce que moi c'est une question que je me pose, parce qu'évidemment je suis pas du tout sportive de haut niveau et je me dis t'as quand même derrière une carrière professionnelle à mener parce que voilà t'as 26 ans et il faut que tu prévois aussi l'avenir. Et donc je me dis comment tu fais pour enchaîner donc un poste de juriste, qu'est-ce qui se passe, t'as des accords avec ton employeur en fait, t'as des heures qui te sont réservées pour l'entraînement?
Alors il faut bien savoir que c'est pas du tout un poste de 35 heures au bureau, etc. Donc ça c'est clair que ce serait très très difficile à tenir avec les 10 à 12 entraînements par semaine, d'autant plus quand on est en prépa marathon où les séances durent longtemps et où il faut aussi beaucoup récupérer derrière. En prépa marathon, je peux faire jusqu'à 150-180 km dans la semaine. Là, je suis obligée de me dédier entièrement à ça parce que sinon, je peux me blesser, ne pas bien récupérer, etc. Mais du coup, moi, je travaille plutôt en tant que prestataire de service. En tant que juriste, mais prestataire. Donc, je suis indépendante et j'ai des jours dans la semaine où je vais travailler là-dessus, mais j'ai quand même une très grande liberté. C'est ce qui me permet de pouvoir jongler avec les deux. Je n'ai pas un travail conventionnel, on va dire. Après, là, je vais commencer la prépa pour rentrer à l'école d'avocat en septembre. Il y a un concours pour rentrer à l'école d'avocat. Donc, je vais faire la prépa pour me préparer justement à ce concours. Là, ce sera ensuite autre chose, puisque si je rentre dans l'école, je suis plus trop indépendante, je vais être dépendante des horaires de l'école, etc. Donc là, je vais devoir m'adapter, mais c'est ce que j'ai fait durant toutes mes années d'études. J'ai fait ma licence là, j'ai aménagé ma licence, je l'ai faite en 4 ans, ma licence de droit. Okay. Donc, j'avais quand même certains aménagements qui me permettaient de pouvoir m'entraîner un peu plus. Par contre, le master, je l'ai fait sans aménagement. Mais malheureusement, mais heureusement pour moi, comme il y a eu le Covid, on pouvait faire les cours à distance de chez nous. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de pouvoir m'organiser et aller m'entraîner voilà, quand je le pouvais. Quoi.
Enfin, il faut une sacrée force quand même mentale. Enfin, moi, ça montre une détermination dingue parce que voilà, t'es à la fois sur le sport où il faut vraiment t'astreindre à un entraînement hyper régulier parce qu'on le disait, c'est un sport qui est un peu ingrat. Donc, tu peux pas louper un entraînement, etc. Et derrière, t'as des cours à mener avec un master à avoir en droit qui est quand même une discipline qui demande beaucoup de rigueur. Donc, voilà, jamais tu lâches. T'es tout le temps dans la rigueur.
Oui, dans la rigueur. Après, j'essaye quand même de le faire avec plaisir parce que déjà, le sport, à l'origine, je cours parce que ça me fait du bien et parce que j'aime ça. Après, je suis, on va dire, tombée dans le sport de haut niveau, mais ce n'était pas forcément mon objectif dès le départ. C'est que j'ai eu des performances qui ont fait que...
Oui, tu as été poussée, en
voilà.
fait.
Enfin, voilà, ouais, et ouais. Une fois qu'on goûte à ça, au maillot de l'équipe de France, etc., forcément, on rentre dans un monde où on n'a pas envie d'en ressortir. Mais à l'origine, c'était vraiment du plaisir et ça me sert aussi d'équilibre, en fait. C'est que je ne me voyais pas et en fait, je n'ai jamais fonctionné comme ça en ayant, par exemple, que les cours. Moi, j'ai toujours eu l'habitude, après les cours, d'aller courir, d'aller à l'entraînement, etc. Donc, ça me permettait aussi de me défouler. Et le soir, quand je rentrais, bah, certes, j'avais moins de temps pour faire mes devoirs ou pour profiter ou rien faire, tout simplement. Mais je savais que sur le laps de temps qui me restait, j'allais être productive parce que mon cerveau, lui, bah, il s'était oxygéné, mon corps s'était oxygéné. Et derrière, en fait, en une heure, je pouvais faire des trucs qu'en trois heures, que les autres font en trois heures, moi, je pouvais le faire en une heure parce que je sais que là, ok, j'ai que ce temps-là, bah, oui, je vais être productive, quoi.
Ouais.
Et ça me... Je pense que j'ai aussi besoin d'être cadrée, d'avoir ces plages horaires délimitées. Et donc, moi, ça m'a vraiment apporté un équilibre, donc au niveau de l'organisation, etc., mais aussi au niveau psychologique. Puisque, comme tu l'as dit, le droit, c'est assez exigeant et le sport de niveau tout autant. Et en fait, quand par exemple, ça ne marchait pas, si j'avais une compète qui ne s'était pas bien passée le dimanche, voilà, j'avais un peu foiré ma course, bah, le fait le lundi de retourner en cours avec des gens qui n'étaient pas forcément au courant...
Ça t'aide à prendre du recul.
C'est ça, ouais. Avec des amis qui ne me considéraient pas comme une athlète de haut niveau, mais juste comme leur ami, bah, c'était super parce que moi, je ne ressassais pas ma course. J'étais là, bon, bah, maintenant, je suis étudiante, donc je vais me concentrer, par exemple, sur le partiel qui arrive bah, pour avoir une bonne note et essayer de me rattraper un peu de cette manière-là. Et inversement, si j'avais eu un partiel qui ne s'était pas très bien passé, bah, j'essayais de me rattraper sur la compète suivante. Donc, moi, ça m'a vraiment aidée dans ce sens-là et aussi pour gérer le stress que je pouvais avoir avec les cours ou inversement. Il y a des fois où on avait des grosses périodes de partiels où toutes mes copines étaient très stressées. Moi, je revenais des championnats d'Europe le week-end d'avant.
Ça.
Donc, c'est vrai que quand j'étais sur la ligne des championnats d'Europe, j'étais plus stressée que devant ma copie de partiel.
Ouais. Ouais, tu prends du recul et puis finalement, tu es peut-être plus efficace parce que tu es moins en panique devant ta copie.
Ouais. Mais en fait, le sport m'a appris des choses que je pense que je n'aurais pas appris en restant uniquement en cours ou à l'école. Des aptitudes, on va dire, que j'aurais pas eu autrement. Et je m'en sers, en fait, après, dans ma vie scolaire et après plus professionnelle.
Mais alors, du coup, pourquoi le droit ? C'est une discipline que tu as... Enfin, c'est une vraie passion au départ chez toi ou intérêt ?
Pas vraiment. Au départ, je pensais plutôt m'orienter vers des études de médecine.
Okay.
Que ma mère est dans le milieu médical, donc voilà...
Oui, c'est souvent.
Elle m'avait un
comme
petit peu poussée, poussée là-dedans. Et finalement, c'est tout bêtement ma prof de français au lycée qui m'a dit « Je te vois vraiment plus dans le droit. Enfin, » J'aimais beaucoup écrire. Enfin, en français, je me débrouillais bien. Et j'aime beaucoup en fait, argumenter et défendre une thèse. Ça, j'adore faire des débats, j'adore faire des choses comme ça. Et vraiment pouvoir argumenter la thèse que j'explique, j'adore. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter le droit. J'avais personne dans ma famille qui a fait ça, donc je connaissais absolument pas. C'est vrai que la première année, on se dit, bon, dans quel monde je suis ? C'est vraiment un monde à part où il y a des mots spécifiques qu'on n'avait pas avant. Il y a tout un raisonnement à acquérir et je l'ai rapidement compris. Donc finalement, je me suis sentie à l'aise assez rapidement alors que j'avais jamais eu de cours de droit ou quoi que ce soit. Et au fond, j'ai toujours eu aussi une admiration pour les avocats. Je trouve que c'est... J'ai une admiration pour eux. Alors après, c'est aussi simplement le statut, etc., ce qui dégage quand ils plaident, quand ils défendent des gens. Après, il y a aussi, bien sûr, tout un côté un peu plus sombre avec toutes les heures de travail et tout ce que ça entraîne derrière. Mais voilà, je pense que les deux combinés ont fait que je me suis orientée dans le droit et je ne suis pas du tout déçue de ce choix.
Alors, est-ce que du coup, tu as un peu de temps quand même dans tout ça pour des loisirs que tu pourrais faire sans être... je parle en dehors du sport, des loisirs culturels, artistiques, est-ce qu'avec des amis, est-ce que tu as du temps un peu quand même pour toi ?
Alors, le temps que j'essaye déjà de le consacrer à ma famille et à mon copain, et à mes amis. Donc, quand c'est comme ça, dès que j'ai un trou dans mon emploi du temps ou voilà, je sais que ce jour-là, j'ai repos, je vais le blinder en essayant de voir toutes les personnes que je peux voir, en profitant vraiment de ma famille. Parce que pour moi, c'est un socle très, très important. Famille, amis, copains, ils rentrent dans la famille, on va dire.
Oui, bien sûr, évidemment.
Donc, c'est vraiment, moi, ce qui me ressource et ce qui me permet d'être performante, en fait, dans le reste. Après, en tant que loisir, par exemple... ça reste un petit peu allié à la performance, mais j'aime aller faire du pilates, des cours de yoga. Récemment, je me suis inscrite à la danse. En fait, j'ai besoin aussi d'exprimer, de bouger mon corps autrement que par la performance et la rigueur de la course à pied qui, des fois, dans le sport de niveau, peut être très rigoureux, où je vais toujours avoir des chronos à faire. J'ai un plan d'entraînement tous les jours, donc en fait, c'est plus très spontané. Moi, quand je vais courir, c'est pas parce que j'ai forcément envie d'aller courir, mais c'est parce que c'est écrit dans mon plan et que je dois le faire. Donc j'avais aussi besoin de retrouver un peu de légèreté et de douceur, on va dire, avec un petit peu d'autres disciplines, d'autres choses comme ça, quoi.
Et alors, je me rends pas compte, parce que du coup, la course à pied, en plus, c'est quelque chose qui se démocratise un petit peu. Tout le monde court un petit peu, surtout là, depuis le Covid. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est un peu développé. Et on court même, on en parlait tout à l'heure, même quand on est plus âgé, on peut continuer à courir et c'est un sport qui peut être fait à tout âge. Mais du coup, quand on est comme ça, une athlète de haut niveau dans ce domaine-là, est-ce que toi, tu as un âge où tu te dis, je vais devoir arrêter parce que je pourrais plus avoir de performance? Ou est-ce que tu te dis, à 40, 50 ans, je pourrais continuer à performer?
Moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir faire ça le plus longtemps possible. Alors, à haut niveau, ce sera le temps que mon corps me le permet. Mais en tout cas, moi, aller faire les courses pour gagner des paniers garnis plus tard, ça va me faire kiffer, c'est sûr. Parce que j'aime courir, en fait, à l'origine. C'est vraiment ce que j'aime.
Donc, dans la catégorie senior.
Dans la catégorie senior, vous me verrez sûrement, du moins, j'espère. Ouais, c'est ça. C'est vraiment mon objectif, c'est de pouvoir faire ça le plus longtemps possible. Donc, le haut niveau, ça sera forcément conditionné parce qu'à un moment donné... Déjà avec la vie professionnelle, avec plein d'autres choses, c'est quand même plus compliqué.
Sûr,
Mais tant que je peux le faire, je le fais à fond. Et ensuite, je sais que j'ai besoin, en fait. C'est vraiment un besoin. Et je pense que ceux qui ont l'habitude de courir ou alors dans un autre sport le comprennent peut-être. À la fin, ça devient un peu addictif. Et on est un peu drogué à ça. Et moi, aller courir en forêt, c'est vraiment ce qui me ressource et ce qui va me... Ouais, ça va me faire un reset, en fait. Donc ça, je pense que j'en aurai toujours besoin et j'espère que je pourrai toujours le faire.
Parce que du coup, tu avais un rêve, enfin, on en avait parlé plusieurs fois, puis ici localement, tout le monde le sait, que tu avais l'ambition de faire les JO là 2024.
Ouais.
Et puis finalement, ça s'avère plus compliqué que prévu. Mais du coup, c'est quoi ? C'est tu te dis, c'est pas grave, je ferai les prochains JO ?
Alors effectivement, j'avais comme ambition de pouvoir faire les Jeux donc sur le marathon, distance sur laquelle je me suis mise assez récemment, puisque c'était la distance la plus ouverte. Pour s'y qualifier, il n'y a que 3 places. Les minima étaient à l'origine un petit peu plus accessibles. Sauf que toutes les filles de ma génération ont donc eu cette formidable idée, évidemment. En plus, vu que c'est chez nous, on a mis les bouchées doubles pour être prêtes à ce moment-là. Et donc, le niveau s'avère beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait il y a quelques années. Après, moi, on ne savait pas non plus comment j'allais réagir à la distance du marathon, comment j'allais pouvoir l'appréhender. Il s'avère qu'il faut faire quelques marathons avant de pouvoir bien la gérer. Il y a des filles qui arrivent dès leur premier marathon à faire les minima et c'est des filles extraordinaires. Moi, j'ai un petit peu plus de mal. Il me faut un peu plus de temps pour
c'est
appréhender
le mental aussi, peut-être sur la longue distance et tout ça.
Le mental, lui, pour le coup, il tient parce que c'est vrai que... Enfin, moi, j'adore le marathon parce que je trouve que c'est vraiment un voyage déjà vers soi-même et on apprend vraiment à se connaître parce que... Je ne cherche pas à être un classement par rapport aux autres. On est des milliers sur la ligne de départ. On ne cherche pas forcément le classement. En tout cas, moi, je cherche plus le dépassement de soi. Et pendant 42 km, il va falloir gérer le discours interne. Donc, il y en a, ça dure 2h30. Il y en a, ça dure 4h, 5h. Et moi, je trouve ça encore plus impressionnant parce que arriver à se gérer... Parce qu'on passe par des émotions. Ah, ça va. Ouais. Ah, ok, ça, c'est cool.
Là,
ah, là,
là,
j'ai mal.
Ouais,
Et en fait, à la fin, juste, on est content et fier. Et regarder une ligne d'arrivée de marathon, je trouve ça trop beau parce que tout le monde est super fier de soi. Alors, il y en a qui sont très, très mal. Moi la première, franchement, je termine, j'arrive plus à marcher. Enfin, je suis au fond. Mais il y a cette fierté où on se dit, ouais, je l'ai fait. Je suis passée par toutes ces étapes mentales, physiques. Et moi, les deux marathons que j'ai fait, c'est vraiment ce que j'ai vu. C'est qu'en fait, c'est le mental qui m'a permis de terminer. Et parce que le corps, le physique, lui, il a lâché. À un moment donné, j'ai des contractures partout, j'ai le dos qui ne me tient plus, j'ai les ischio-contractures, enfin, tout est... Le corps, lui, il est dit, bon, là, moi, je ne peux plus. Et c'est le cerveau qui a dit, OK, bon, bah, maintenant, je vais prendre le relais, et tant bien que mal. Alors, généralement, on n'a pas la plus belle foulée à l'arrivée d'un marathon. Mais parce que là, c'est le cerveau qui nous pousse à franchir la ligne, quoi. Donc, pour revenir
moi,
sur les jeux, j'ai un peu digressé, mais pour revenir sur les jeux, bon, je ne regrette pas du tout d'avoir tenté. Parce que, en fait, depuis qu'on est jeune, il y a quelques années, on avait déjà été un groupe d'athlètes dont je faisais partie avait été ciblé en mettant génération 2024. Donc moi, depuis quelques années, je l'ai quand même en tête, malgré le fait que voilà, je me voyais pas non plus. J'ai toujours un peu ce truc où je me dis non, je suis pas assez forte pour. Je me minimise un peu et peut-être que c'est aussi ce qui fait que je me suis pas lancée non plus à 100% en me disant ah, je vais à tous les coups je vais y arriver, etc. Bon, effectivement, les minima, c'est quand même assez loin. Là, il faudrait que je fasse 2h35, donc il faudrait que je gagne 10 minutes sur un marathon. En l'espace de quelques mois, c'est impossible. Malgré toute la bonne volonté du monde, si je veux le faire de manière saine et correcte,
oui,
ce n'est pas possible. Mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Il y a aussi il y a des championnats d'Europe qui arrivent tous les 2 ans, il y a des championnats du monde. Donc en fait, il y a des jeux dans 4 ans aussi. Donc les sélections, il y en a en équipe de France, il y en a quasiment tout le temps. Et moi, je veux aussi continuer pour progresser vis-à-vis de moi-même, en fait, pouvoir me dire, OK, bah, là, je fais 2h35, je pense que je peux valoir 2h30, alors je vais essayer de m'en approcher. Et si les autres, elles valent 2h22 ou 2h24, bah, tant mieux pour elles. Mais moi, il faut déjà que je sois fière de mon propre parcours, même si on a tendance à se comparer au tout meilleur. Et
oui.
Encore plus dans le sport de haut niveau où on est déjà dans un cercle très restreint, donc on se compare au tout meilleur, alors que si je dézoome, je crois qu'on est... je dois faire partie des 0,001% des femmes qui font 2h35
oui,
au marathon. Enfin, donc ça dépend aussi de la perspective qu'on prend.
Ah, mais c'est là où je te trouvais vachement sereine sur tout ça, parce que je trouve que c'est pas si simple d'arriver à relativiser justement les échecs, ou en tout cas les choses où tu te dis mince, je vais pas pouvoir y arriver. Mais en fin de compte, tu te dis ouais, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a d'autres compètes, et puis finalement, ok, je suis peut-être pas la meilleure sur ça, mais finalement, je suis la meilleure par rapport à plein de gens. Puis en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai progressé. Puis t'as aussi un discours de dire, et en fait, je vais pas détruire mon corps, genre pour aller super vite sur une performance, parce que finalement, peut-être c'est mieux d'y aller doucement, de respecter aussi ce que je suis, mon entraînement. Et puis peut-être d'être au niveau dans 5-6 ans. Donc ouais, je trouve
après,
ça hyper mature.
Après, je te dis ça
mature,
effectivement de manière très sereine et mature,
bah,
mais derrière, il y a toute une armada de professionnels, de psychologues, de préparateurs mentaux qui m'ont blindé le cerveau. Parce que sinon,
ouais, mais c'est vachement
j'aurais pas pu. Effectivement, je pense que si on est lâché, alors il y en a qui arrivent très bien, hein, peut-être qu'ils sont formatés pour ça, mais c'est quand même assez hard mentalement.
Mais je suis
sûre
de ça.
Et moi, depuis que j'ai 17 ans, je suis suivie par un préparateur mental parce que. J'avais connu un échec au Championnat de France qui m'avait vraiment... je visais vraiment la première place de gagner le Championnat de France et je termine 160e. Donc quand on a 17 ans,
gros décart, ouais.
On se dit « Waouh !» Donc là, il y a toute notre équipe qui est contre nous, tout le monde qui nous dit « Ah hein. !» Enfin, et c'était vraiment très dur. Et à ce moment-là, donc, j'ai été voir ce préparateur mental et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le mental avait aussi un rôle très important dans la performance et que ça pouvait soit nous accompagner... nous aider ou soit nous desservir totalement et qu'il fallait apprendre à bien le gérer. Et aujourd'hui encore, des années plus tard, 8 ans plus tard, je suis toujours suivie par des professionnels parce que effectivement, mentalement, c'est quand même difficile de gérer tout ça, de gérer la pression qu'on peut avoir de l'extérieur, la pression que nous-mêmes on va se mettre, les attentes en fait des autres. Et c'est plus ça, ça va être plus les attentes des autres qui vont être difficiles à gérer que nous-mêmes, ce qu'on s'impose, parce qu'on se connaît, donc on sait à peu près ce qu'on vaut. Mais en plus, avec les jeux, il y a les partenaires autour, il y a plein de choses, et on a aussi besoin de vendre un projet. Moi, je peux faire ça aujourd'hui parce que j'ai des partenaires privés qui m'aident, qui me sponsorisent, j'ai des mécènes. Donc j'ai aussi toute cette équipe derrière moi qui me porte. Mais il faut savoir le gérer correctement parce que je ne leur vends pas une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ce que je leur dis, c'est si vous m'accompagnez, c'est un projet avant tout sportif humain dans lequel je vais partager avec vous mes réussites, mes échecs, on va apprendre ensemble, on va avancer ensemble. Donc c'est aussi arriver à bien se placer par rapport à ça, quoi.
Pour pas que ça te mette une pression à l'inverse, de genre parce que t'as une équipe qui te finance derrière, du coup tu vas te donner à fond parce qu'il faut absolument que tu leur offres un truc, mais en fait finalement c'est plus pour toi que tu le fais, ou en tout cas c'est plus pour te dépasser toi et que ça vrille totalement.
C'est ça. Dans tous les cas je me donne à fond, mais effectivement aussi il faut se rappeler de pourquoi. Et moi il y a eu pas mal de courses où a posteriori on avait avec mon préparateur mental que je ne courais pas que pour moi, mais je courais pour un tel, donc dans le sac à dos derrière ça pesait un peu lourd, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et effectivement c'était plus compliqué. Alors que quand j'étais plus jeune et que je me présentais sur une ligne de départ, c'était pour le kiff et pour me dire ok, je vais essayer d'être la première, quoi. Je vais tout donner et tu cours quand même plus libérée. Après, il y a aussi le fait d'avoir un très bon entourage qui me permet de garder, on va dire, les pieds sur terre et la tête froide. Et ça, encore une fois, famille, amis, etc., de pouvoir être aimée non pas pour l'athlète, mais juste pour Mathilde, en fait.
Et ça compte aussi beaucoup. Si tu échoues sur ton côté athlète, en tout cas si t'es pas au niveau que t'aurais espéré, t'as quand même ce socle qui est là et tu te dis ils vont pas m'en vouloir, en tout cas
oui,
ils vont rester proches de moi malgré tout.
Mais c'est vrai que j'ai dû travailler là-dessus parce que moi j'avais l'impression qu'on m'aimait plus si je faisais des meilleures performances. Et ça, je pense que ça peut être retranscrit dans plusieurs métiers, etc. Ou si je réussis là, peut-être que les gens vont plus m'aimer. Mais si les gens nous aiment plus pour ça, c'est qu'ils nous aiment pas pour les bonnes raisons.
Exactement.
Mais et ça, moi, ça je trouve qu'il après.
Ouais, mais je trouve qu'il faut une grande maturité pour penser ça. Et puis, je vais te dire, c'est valable même pour la vie professionnelle, parce qu'on est tous là-dessus. Hein.
Ouais.
C'est de se dire, finalement, pourquoi est-ce que je fais les choses? Pourquoi est-ce que je fais ce métier-là? Pourquoi est-ce que je m'engage là-dedans? Est-ce que je le fais pour moi?
Ouais.
Et puis, mes réussites, est-ce qu'elles me rendent fière moi? Est-ce que je les fais pour être meilleure que les autres? Est-ce que voilà? Donc c'est. Et moi, je trouve que. À 25 ans, j'avais pas, en tout cas, ce recul-là, moi. Maintenant, ça va mieux, mais.
Le sport, je pense que le sport m'a vraiment amené beaucoup de maturité, et surtout le sport de haut niveau, parce qu'on est confronté à la compétition, on est confronté en fait à soi-même et on apprend à se connaître soi-même. Et on a plein de fonctionnements, de biais de fonctionnement qui sont dus à notre enfance, à comment on a été conditionné, à ce que nous ont dit nos parents, enfin plein de choses qui peuvent paraître anodines mais qui en fait résonnent beaucoup et pour moi sont mis en exergue dans ma façon de courir ou dans mon approche du sport de haut niveau, etc. Donc je trouve ça super intéressant aussi. Pour moi, c'est aussi un outil de développement personnel et de connaissance de soi, en fait.
Ouais. Mais qui est essentiel dans le sport,
totalement.
Mais du coup aussi dans la vie professionnelle et même
dans la
vie familiale.
Exactement. Donc, c'est humain, quoi.
Exactement. Si tu construis après, une famille, etc., c'est des valeurs qu'il faut transmettre, savoir, avoir en tête. Donc, hyper précieux.
Ouais.
Du coup. Et est-ce qu'il y a des gens autour de toi ou des personnalités comme ça que tu admires et qui t'ont aidé sur ce parcours-là?
Très simplement, je dirais déjà mes parents, forcément. Je pense qu'on aura compris que la famille,
mais
c'est
non,
très
mais
important.
C'est,
mais c'est vrai
c'est une
que...
chance, on la choisit pas, donc
ouais,
c'est bien.
Pour le coup, je pense que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Et j'admire mon père pour son parcours professionnel, pour tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Mon papa qui court encore à 77 ans, pour moi, c'est juste un exemple. Et il fait encore du ski nautique. Enfin, j'adore. Et ma maman, pareil, qui est infirmière, donc qui a toutes ses qualités d'empathie, de bienveillance, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment deux personnes que j'admire. Ma grand-mère aussi, qui a une vie pas évidente et qui, pourtant, aujourd'hui, c'est le symbole d'une femme forte et indépendante. Donc, ça m'inspire aussi beaucoup.
Exactement, bien sûr.
Donc, c'est pas tant des personnalités, on va dire, du monde sportif, mais plus, ça va être des qualités humaines qui vont m'inspirer pour ensuite m'en servir dans ma carrière sportive, professionnelle ou dans ma vie de femme de tous les jours, quoi.
Mais c'est là, du coup, où on voit le lien peut-être avec ton choix d'études et puis le métier d'avocat. Parce que quelque part, tu vois, sur les qualités humaines et puis l'importance justement des valeurs, etc., ça va te servir pour défendre, pour plaider. Pour,
Alors moi, je m'oriente dans le droit des affaires, droit des sociétés. Donc c'est... Globalement, ça va être aider le chef d'entreprise dans toutes les étapes de la vie de l'entreprise, parce que en fait, j'admire aussi beaucoup les chefs d'entreprise et je pense que j'ai aussi un peu l'âme de chef d'entreprise. Déjà avec ce que je fais dans le sport de haut niveau, c'est comme si j'avais une entreprise parce que je dois gérer tout ce qui va être la communication, je dois gérer les sponsors, le budget, l'image,
l'équipe
autour, manager, enfin voilà, les primes sur les compétitions. Donc il y a, en fait, on est une petite entreprise. Et j'aime bien ça. Et du coup, j'ai aussi envie de pouvoir aider et accompagner les chefs d'entreprise. Ça m'a toujours intéressée. La vie de l'entreprise, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que, que je me sois orientée dans ce domaine-là.
Ah, mais c'est intéressant parce que c'est tout autour finalement, et c'est ce que je disais un peu en introduction, du challenge et puis d'oser. Mmh. Parce que finalement, dans le sport comme là, dans ce que tu fais professionnellement, c'est te dire, tu vas admirer la personne qui prend les risques et qui va créer quelque chose, donc quelle que soit finalement la passion, mais voilà, oser se challenger sur un sujet, quoi.
Ouais, c'est ça. Et moi, c'était très difficile au départ. Enfin, je suis quand même... À l'origine, je suis une petite fille timide qui...
T'as pas l'air du tout, hein.
Et parce que je me suis beaucoup améliorée, mais à l'origine, c'est une petite fille timide, bonne élève, etc., mais qui reste dans les cases et qui fait pas trop de bruit. Et c'est vrai que mon papa m'a toujours dit, je me rappelle, il m'avait écrit un mot en disant « Ose, enfin voilà, tu perdras rien à oser, c'est comme ça que tu vas ouvrir des portes, etc. » Et par exemple, moi, au début, c'est difficile d'aller voir des chefs d'entreprise pour se demander « Bon, bah voilà, oui, c'est ça mon
je
projet,
cours.
mais j'ai besoin qu'on m'aide parce que je peux pas travailler à côté pour gagner de l'argent, est-ce que ça vous intéresserait ?» Moi, je l'ai vendu autrement, mais c'est vrai que c'était compliqué. Au départ, c'était vraiment compliqué pour moi, et finalement... À force de le faire et de sortir un peu de cette zone de confort, bah la zone de confort s'élargit. Et ça m'a aussi bien fait grandir par rapport à ça, quoi.
Ah, mais je trouve ça super important, tu vois, ce que tu dis, parce que moi, je crois beaucoup à ça. Si déjà, tu as un papa qui te dit « mais vas-y, ose, quoi.
Ouais.
Tout est possible, vas-y,
exactement,
lance-toi, et je suis là derrière, donc oui, vas-y, fais-le. » Je pense que ça détermine toute ta vie derrière, parce que si à l'inverse, tu es entouré de gens qui te disent « oh là là, fais attention,
non,
quand
ouais,
même,
ouais,
est-ce que tu es sûr de toi ?» Est-ce que, enfin, bien sûr, ils peuvent donner des conseils, mais je veux dire, le fait déjà de te dire « tu sais quoi, ose ?» Bah, je pense
tu
que derrière,
faire, ouais,
quand c'est ton père qui te dit ça, forcément, ça te porte, quoi.
C'est clair. Et encore une fois, c'est là que l'entourage a vraiment c'est vraiment important, puisque ça va nous conditionner, en fait. Ça va conditionner comment on va se présenter au monde. Si on nous dit, bah ouais, t'inquiète, tu peux tout faire, vas-y, essaye. Au pire, il se passera rien. Enfin, au pire, c'est un non, et puis tu réessayeras à côté. Mais et c'est vrai
bah,
que
ça
nous booste et ça nous aide vraiment, quoi.
Bah super. Et alors du coup, c'est quoi tes projets ? On demande souvent, pour finir ce podcast, de dire quel est ton demain, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, parce qu'on pense qu'il faut toujours être porté par voilà, quelque chose que tu ambitionnes ou que tu projettes. Et donc toi, voilà, quel est ton demain, Mathilde ?
Alors, mon demain, ça va être d'avoir ce concours pour rentrer à l'école d'avocat qui n'est pas évident, et en même temps de gérer la carrière sportive, où j'aimerais donc me rapprocher des 2h30 au marathon, voire casser la barre des 2h30 si je peux. Ce serait un accomplissement personnel et j'en serais très fière. Et ensuite, gérer, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais vivre ma vie de fab, ma vie de petite amie. Voilà, je suis du coup revenue sur Blois, alors que j'ai passé 3 ans à Lyon pour mes études, pour mon master. Et là, je suis rentrée définitivement à Blois en décembre. Donc, c'est une nouvelle vie un petit peu qui s'ouvre à moi. Je me suis installée ici avec mon copain. Donc, vraiment prendre mes repères dans cette nouvelle vie, où je me suis rapprochée aussi de ma famille. Donc, essayer de trouver ma place et de naviguer entre tout ça, en pensant à moi pour mes études et la carrière sportive, mais aussi en me nourrissant et me ressourçant auprès des gens avec qui je me sens bien, quoi.
De manière hyper équilibrée, quoi.
C'est ça, toujours dans l'équilibre, parce que je pense que c'est ce qui marche pour moi. J'ai essayé, notamment l'année dernière, où j'avais terminé mon master, j'avais mon master en droit, et j'ai fait que du sport pendant un an. Mais il s'avère que je me suis blessée 2-3 fois dans l'année. Et mentalement, j'étais pas très bien. Vu que j'existais, on va dire, qu'à travers les performances, qu'à travers la sportive, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc, bien sûr, à côté, je faisais toujours des petits trucs, mais c'était pas pareil. Alors que quand j'avais mes études quand je fais autre chose à côté, je sais qu'il n'y a pas que Mathilde la sportive. Et donc, je pense que ça met moins de pression sur Mathilde la sportive. Ça répartit un peu plus le tout, ce qui permet d'être un peu plus équilibré sur ses deux jambes, d'avoir la tête correctement mise. Et moi, je pense que c'est comme ça que je peux être la plus performante dans tous les domaines.
Et
quoi.
Oui, exactement. Et du coup, voilà, à la fois peut-être casser la barre des 2h30 pour le marathon, et à la fois continuer ta carrière d'avocat.
Je pense que c'est pas incompatible. Parfois, on dit c'est soit l'un, soit l'autre, ou faut être à 100% dans un domaine pour réussir. Potentiellement, oui, il y en a, ils ont besoin d'être à 100% dans un domaine pour réussir. Après, moi, ça va être, y a des périodes où je vais être plus 80% dans l'athlé et un peu moins dans le reste. Et des fois, ça va être plus dans le reste quand à l'approche du concours, ou voilà, dans des périodes plus importantes pour les études, par exemple, je vais mettre un peu plus mon attention là-dessus. Mais ça va plus être vraiment un vase communicant où, en fonction du moment, je vais mettre soit là, soit un peu plus là, soit un peu plus là. Mais toujours dans cette idée d'équilibre, quoi.
Ouais, et à l'inverse, je trouve ça hyper cohérent, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, t'es pas sur un truc où t'aurais plusieurs projets qui vont dans tous les sens. Parce qu'en fait, il y a quand même quelque part un pourquoi qu'on sent, en tout cas, une façon que t'as de voir les choses qui est hyper cohérente entre le choix professionnel et le choix sportif. Et puis, t'es dans un sport aussi où, de toute façon, tu peux pas en vivre, en fait. Même si t'es de haut niveau.
C'est très, très compliqué. L'athlétisme, c'est pas du tout... c'est pas un sport dans lequel... On peut en vivre, à moins qu'on soit très très fort. Et encore, franchement, il y en a pas beaucoup. Et je sais, enfin, on le voit là, il y a beaucoup d'athlètes qui font des cagnottes en ligne pour participer aux Jeux, alors que c'est dans 6 mois. Donc le système est bancal, donc on peut pas en vivre, et ça, il y a vraiment cette insécurité. Et c'est aussi ce que je voulais contrer, parce que ça amène du stress.
Exactement. Ouais.
Donc moi, j'avais besoin de me dire, ok, j'ai ce socle solide avec ces revenus-là qui me permettent de vivre sereinement. Et à côté, j'ai mon sport. Si je peux en tirer des revenus, tant mieux. Ça me permet de payer mes stages à l'étranger, tout l'équipement, etc. Mais ça conditionne pas mon niveau de vie, quoi.
Et du coup, voilà, t'es plus sereine sur tous les sujets.
Ça. Ouais, exactement.
Super. Je te souhaite pleine réussite, Mathilde.
Merci beaucoup, Charles.
Mais j'en
super.
Doute pas, en fait.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet saison 4. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés et c'est important pour nous. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Insta, Facebook et LinkedIn. Nous vous répondrons toujours avec plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies, saisissez vos rêves. Vivez l'instant, osez la liberté, soyez juillet.